Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Dans les studios de RVM, nous recevons François-Paul Maisto pour parler d'un livre qu'il vient d'écrire, Ricky Amigos Story. Il nous explique la genèse de ce livre.
Le bouquin a été... J'ai décidé de faire ce bouquin parce que je voulais pas trop parler du style de musique, tout ça, parce qu'on nous connaît quand même un peu. Je voulais surtout parler de toutes les aventures qu'on avait eues et de la rencontre avec Ricky et de la rencontre avec les autres.
Le livre est un peu atypique parce que c'est pas un roman.
Non. Non, c'est que des histoires vraies.
C'est pas romancé, c'est plutôt des anecdotes.
Des anecdotes telles qui nous sont arrivées.
Donc, alors, comment est né Ricky Amigos ?
Alors, Ricky Amigos est né dans les années 80, au début des années 80. Moi, j'étais bassiste avec Manu Chao, un peu intérimaire, parce que c'est lui qui. C'était mon voisin, et il savait que j'étais musicien, donc il était venu me chercher pour faire une basse, parce que son bassiste était parti. Et comme il avait une petite tournée, il m'avait dit « ça t'ennuierait de jouer de la basse avec nous ?» Je lui ai dit « non, pas du tout ». Donc on a fait la tournée, puis après on a continué à jouer un peu. Et il m'a dit « je vais te présenter un chanteur, tu vas voir, c'est un super chanteur et tout ». Et il m'a présenté Ricky. Alors Ricky est arrivé à la salle de répétition, et là je me suis dit « c'est lui le chanteur et tout ». Et puis quand je l'ai entendu, c'est lui le chanteur.
C'est lui le chanteur. Et Eric Fournet, donc Ricky Amigo, comment il connaissait Manu Chao ?
Je l'ai connu par hasard, parce que quand je suis arrivé à Paris, c'était en fin 80, je prenais des cours sous l'Olympia, une école qui s'appelait l'école des variétés de Maria Munch, et je cherchais, on cherchait un batteur et un guitariste en plus, parce que moi je ne savais pas à l'époque jouer de la guitare, rien, ou très peu, quoi. J'étais que chanteur, et j'avais mis une annonce dans la rue des Martyrs, pour être précis. Donc, chanteur et bassiste cherchent groupe, voilà, style rock'n'roll, Gene Vincent, Vince Taylor, rock'n'roll. Et Manu m'appelle. Il avait un groupe qui s'appelait Joint de culasse à l'époque. Et donc, on a répété chez lui, chez ses parents. Il habitait, il répétait dans le garage en dessous chez ses parents à Sèvres. Ouais. Et voilà de comment on s'est connus. Et puis... Donc, j'ai répété avec lui, puis il ne me rappelait pas. Bon, tant pis, il avait dû prendre quelqu'un d'autre. En fait, il cherchait un bassiste. Bon, là, il a eu le bassiste et le chanteur, mais bon...
À l'époque, tout le monde y avait dit à Manu, pourquoi tu cherches un chanteur ? Tu chantes très bien, tu n'as pas besoin de prendre un chanteur. Donc, il a fini par rester sur cette idée-là. Et moi, j'ai revu Ricky après, parce qu'on a eu un bon contact. Et après, avec Ricky, moi, je l'accompagnais, et puis on faisait les pâtés Marconi, tout ça, on faisait les
auditions.
Les auditions, voilà, ça, je cherchais le truc.
Pour attraper un contrat chez pâtés Marconi.
Voilà, on était tous les deux, en fait, au départ.
En fait, le groupe, vous êtes quatre. Dans le groupe,
oui,
à peu près,
la naissance du groupe, oui.
Et ça fait combien, 40 ans,
oui,
que vous êtes ensemble ?
Ah oui, depuis 1983.
Le groupe ? Groupe, 83.
Nous, on se connaissait avant.
On se connaissait en 82.
Moi, j'ai l'impression que ce bouquin-là, il découle de vos rencontres.
Oui.
C'est-à-dire que quand vous vous rencontrez maintenant, vous parlez de ce qui s'est passé avant, puis tu t'es dit d'un seul coup, ces anecdotes, il faut que je les couche quand même sur le papier, il ne faut pas qu'elles disparaissent.
Exactement. Oui, parce que tu peux pas faire un disque avec, tu peux pas faire un enregistrement, faire de la narration sur un fond musical en racontant ces histoires, c'est possible, mais c'est pas le but.
Moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça formidable, parce que c'est la folie des années 80.
Oui, complètement. Ouais.
Ça serait plus possible maintenant de faire ce que vous avez fait.
Je crois pas, non.
Parce que vous partiez à l'aventure Dans une Mercedes, dans ça.
C'était un vieux camion Mercedes.
Un vieux camion Mercedes.
307D.
avec deux places assises seulement.
Il y avait deux places devant, et nous, on était assis avec Albert, le bassiste, on était assis derrière sur les amplis. Parce que lui, il avait l'itinéraire, et Mozart, c'était son camion, donc c'est lui qui conduisait.
Mais après, il s'est amélioré, ce camion.
Oui, après, Mozart, il a rajouté des vitres.
Il a rajouté des vitres sur le côté.
Il a rajouté
le ligue.
Il a mis un vrai siège après derrière.
Et le cercueil.
Le cercueil. Alors le cercueil, c'était une plaie, ce truc, parce qu'il était en bois épais comme ça, et il mettait tous ses pieds de batterie, toute la ferraille de la batterie, il la mettait dedans, plus des pieds de micro qu'on emmenait. Alors le cercueil,
c'est une horreur.
Quand il fallait le trimballer, il n'y avait pas beaucoup de volontaires.
Hein. Du coup, est-ce que c'est un livre nostalgique ?
Un petit peu, quand même. Un petit peu. Moi, pour moi, il est nostalgique, oui, parce que j'adorais cette époque. J'ai adoré tout ce parcours.
Ouais, à cette époque-là, il n'y avait pas de contraintes comme il y a maintenant.
Pas du tout.
Parce que je vois la voiture, la façon de faire.
Ouais, il n'y avait pas de contraintes. Non, c'était.
On pouvait fumer dans les bars.
Ouais.
Ça, c'est pas bon pour les chanteurs.
La tournée en Bretagne, c'était quelque chose aussi. Pas. Ça a été copieux.
Donc, dedans, il y a l'effet marquant, en fait. Vous avez des références de certaines villes, comme Nîmes, je pense que Nîmes, ouais, c'est un Nîmes, truc important.
Nîmes, c'est notre deuxième patrie, quelque part, ouais. À l'époque. Toutes les années 80, il peut te donner des précisions, si tu veux, parce que lui, il est bon pour les précisions. Ouais. Pendant tout le début des années 80, pendant 5 ans, hein, c'est ça au moins, on a fait la feria de Nîmes.
10 années, on a fait.
Ouais. Il y avait celle des vendanges aussi, qu'on faisait de temps en temps, mais on a fait surtout la grande feria, qu'on a fait souvent. On a fait la première partie de Gypsy King, la première partie de Raoul Petit, de groupes comme ça, quand même, devant 5 à 10 000 personnes.
Mais vous passiez plus de temps sur scène ou dans les bistrots ?
On va dire que...
Parce que dans le livre,
dans les bistrots,
place importante.
Dans les bodegas, on va dire.
Ouais, ça a une place importante.
Les bistrots, là-bas, pendant la feria, c'est des bodegas.
Ouais.
Ça fait des bodegas.
Ah, mais c'est la feria.
Il y a Lon Le Saunier aussi.
Alors Lon, d'ailleurs, il vient de m'apprendre, il m'a appris la semaine dernière la mauvaise nouvelle que le patron est décédé du bar. Albert, il s'appelait. Alors, Lon Le Saunier, c'était quelque chose.
Salvadori.
Ouais. On était arrivé dans cette salle, on pensait que c'était une salle, c'était le café du théâtre. Et on s'est dit...
Grand café du théâtre.
Ouais, on ne va pas pouvoir jouer là-dedans. Des personnes âgées, on va être... qui étaient en train de prendre leur vermouth ou leur thé avec des petits gâteaux. On s'est dit, c'est pas notre public. C'est quoi? Il est fou, le patron. Et il nous avait dit, non, vous savez, le soir, c'est pas le même public. Ah bon? Et c'est effectivement... le soir, ça a été... C'était la folie.
Il existe toujours, ce café, c'est magnifique. Ah, magnifique. C'est classé. C'est le café du théâtre, ouais. De Lon Le Saunier. Avec des vitres classées.
Des glaces, des grandes glaces. Des glaces.
Avec des, heureusement des grands tissus, ouais. Des rideaux pour les protéger. Mais quand même.
Il avait peur pour ses vitres le soir où on a joué.
Pour ceux qui vont vous découvrir à travers ce bouquin-là, vous avez aussi inventé un style de musique.
Ah, ça c'est sûr. Alors là, ça c'est arrivé, je vais vous dire comment. Avec Ricky, je connaissais Ricky un petit peu, il jouait pas de guitare. Et on m'appelle, on me dit, ma manager, il me dit, écoute, si tu veux pas gagner un petit peu d'argent, je vais faire, avec son orchestre, il faisait un mariage, il me dit, on a besoin d'une attraction pour faire du flamenco, genre les Saintes-Maries de la Mer. Il faudrait... Alors moi, j'ai dit, mais ouais, tout de suite, parce que moi, j'étais ric-rac tout le temps, donc je l'appelle, et il me dit, mais moi, je joue pas de guitare, ben, j'ai dit, t'as une semaine pour apprendre. Et il est revenu, il avait appris 3 accords, et il les faisait vachement bien, et on a joué les 4-5 morceaux, on les a rejoués plusieurs fois, et ça s'est très très bien passé.
Dans ces années-là, vous étiez tout le temps sur la route ?
Après, oui. Après, on tournait pas mal quand même. Et puis on tournait dans Paris aussi, on faisait des concerts dans Paris aussi. Mais là, il peut te le dire, c'est lui l'encyclopédie des concerts.
Ouais. Parce que Eric Fournette, il était à la fois producteur, manager et leader et chanteur.
Voilà, et puis compositeur aussi, auteur. On composait aussi tous les deux, hein, mais lui, beaucoup plus que moi quand même.
Je suis le seul à parler espagnol. Ah oui, déjà pour commencer. Mes parents habitent en Espagne. j'avais cette culture quoi, du flamenco. Mais enfin, j'étais d'abord rock'n'roller et je me suis mis un peu par hasard dans cette lignée de la rumba gitane. Je me suis amélioré, j'ai travaillé.
Le Kia Amigos a ouvert les portes. Et il y en a plein qui se sont enquillés dedans, mais tant mieux pour eux. Hein. Eux, ils ont beaucoup mieux
réussi. Mais il n'y avait rien à l'époque.
Il n'y avait rien, on était les premiers à faire ça.
Il y avait Chihuahua, un autre groupe qui faisait
peur. Ils sont arrivés après.
Ouais, même, plus ou moins en même temps. Il y avait Manu qui dit qu'il faisait avec son cousin et compagnie, il jouait des trucs de leur chonguito.
Ouais, mais pas en public.
Non, dans les loges et ouais, tout
je
ça.
Sais, je sais, j'étais là, moi.
Ah oui, mais ça, je ne savais pas. C'est nous, effectivement, qui avons, puisque tu m'as fait rencontrer ces musiciens, le batteur, et moi j'ai appelé Almer, qui était un groupe de rock, ils avaient le local, ils avaient toute la sono, tout ça. C'est moi qui me suis dit, mais tiens, les chansons qu'on fait de rumba, de musique espagnole, variété, entre guillemets, on va les mettre en rock, puisqu'on est un groupe de rock, avec les éléments qu'on a. J'avais toujours eu cette idée dans ma tête du flamenco rock, comme ça. Au niveau commercial, en plus, ça c'est bon, marketing, c'est... Moi, j'ai fait une école de commerce, donc je me disais, ça c'est bon, c'est un style qui va marquer. Je pense qu'avec ça, on peut développer.
Et ça n'a pas loupé.
Par rapport à tous les groupes de rock qui étaient à l'époque. Ou,
quand notre premier 45 tours est sorti, on a fait deux télés majeures. On a fait Jour J. C'était une télé qui était bien écoutée juste avant les infos, le soir. Et on a fait Platine 45 avec Jackie. Dans la même semaine. C'était quand même bien. Hein. C'est, surtout la télé, il y avait que ça à l'époque. Hein.
On est parti rapide. Et après, bon, on s'est un peu essoufflé, mais bon, au début, on a servi.
Alors là, vous êtes là aussi dans les studios de RVM parce que vous êtes lié à la ville de Crouy-sur-Orge.
Avant, j'habitais Paris et maintenant, j'habite à Crouy-sur-Orge. Bon, j'avais cette maison depuis 30 ans, puis j'ai quitté la capitale. Et j'en suis très content, je suis très bien à la campagne, et donc effectivement, disons que le groupe joue souvent, régulièrement, dans ce rayon de la Seine-et-Marne-Nord, de l'Oise chez vous, de l'Aisne.
Alors, François-Paul Maisto, pour donner envie aux gens d'acheter ce livre-là, qu'est-ce qu'il faut leur dire ?
De venir faire un voyage avec nous
dans les années 80 ?
Dans les années 80, voilà. Que ce soit dans les hôtels, dans l'utilitaire, dans le camion, moi j'appelle ça l'utilitaire, parce que, oui, voilà. Je ne leur demanderai pas de venir décharger le matériel, mais... Mais ça va, ça serait bien.
Comment on peut trouver ce bouquin, alors ?
Ah ben, on le trouve chez Amazon. On le commande, Amazon, la Fnac, n'importe quel libraire. On lui présente le bouquin, on dit voilà, je veux ce bouquin-là, et lui le commande.
Cultura
aussi.
Les éditions Spinel.
Oui, Spinel aussi. Ouais. Moi, je suis content de l'éditeur parce que j'avais un autre éditeur avant, il ne faisait pas grand-chose. Lui, je ne dis pas qu'il fait beaucoup, mais il fait beaucoup mieux.
Alors dans les studios de RVM, c'était Hervé qui recevait François-Paul Maisto pour la sortie de son livre Ricky Amigos Story. Bonne écoute sur RVM 93.7.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.